C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de l'autre amant. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassily Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Le mois dernier, en novembre, c'était le mois de la photo à Paris, avec de nombreuses expos et la Foire internationale de photographie d'art, Paris Photo, du 8 au 11 novembre. Mais comme dans Museum Side, on ne fait rien comme les autres, on a décidé de vous concocter une émission spéciale photo aujourd'hui, dimanche 9 décembre, pour ouvrir le mois de Noël comme il se doit. Peut-être d'ailleurs que cela vous donnera des idées de visites pour les vacances. En première partie, je vous emmène justement un peu en dehors de Paris, dans le château de Chantilly, dans l'Oise, à 20 minutes en train. Jusqu'au 6 janvier, vous pouvez voir dans le cabinet d'art graphique du château un échantillon de la collection du duc d'Aumale, propriétaire du domaine au 19e siècle. Les primitifs de la photographie de Baldus à Le Grès proposent de retracer l'évolution de ce médium, de son apparition à sa révélation comme art à part entière. Nous en parlerons avec la conservatrice Nicole Garnier, commissaire de l'exposition. En deuxième partie, direction le musée du Jeu de Paume, qui n'a pas brûlé le week-end dernier. On vous conseille vraiment d'aller y faire un tour pour découvrir la rétrospective de la photographe Dorothea Lange. Et si son nom ne vous dit rien, peut-être que son œuvre la plus célèbre, Migrant Mother, vous dira quelque chose. On en discute juste après. Alors, j'ai autour de moi tous les chroniqueurs de l'émission que vous commencez à bien connaître. Boris, salut Boris, notre photographe justement.
Bonsoir à tous.
Marie, tu nous feras d'ailleurs une chronique à la fin de l'heure. De quoi tu vas nous parler ce mois-ci?
Bonsoir. Aujourd'hui, je voulais parler du fonds photographique qui est conservé au musée Albert Kahn à Boulogne.
On retrouvera Enora, notre passionnée d'archéologie, le mois prochain. Et enfin, Galadriel, guide conférencière et passionnée de transmission. De quoi tu vas nous parler ce soir?
Bonsoir. Alors, c'est vrai que nous sommes au mois de décembre et la fin d'année est souvent le temps des bilans. J'ai justement eu envie de me poser un peu et de faire le bilan sur mon activité quotidienne. C'est vrai, je ne m'arrête jamais. Un jour médiatrice à la Fondation Louis Vuitton, un matin formatrice pour des professeurs au Louvre et le soir même conférencière dans une exposition à l'autre bout de Paris. Ça demande une sacrée énergie. Mais où est-ce que je trouve cette énergie? On le dit souvent, les métiers de la culture et des arts sont des métiers de passion. Cette passion pour l'histoire de l'art est née chez moi vers 12-13 ans, lors d'un voyage à Florence, en Italie. Mon père nous traînait toute la journée dans des magnifiques musées de cette ville. On avait mal aux pieds, mais l'émerveillement a été plus fort que la fatigue. Et je vous pose la question, comment rester de marbre devant les Michel-Ange, Botticelli et Raphaël? Dès lors, je me suis orientée vers un cursus qui m'a amenée à devenir historienne de l'art. Pourtant, l'indigestion des dates, des noms compliqués de Filippino Lippi à Bodhisattva à Avalokiteshvara, les kilomètres de livres et de galeries, de musées à parcourir, auraient pu me détourner plusieurs fois du chemin. Alors pourquoi? Eh bien, j'aime l'humain, les personnes et plus encore les dynamiques de groupe où le monde s'allie vers un but commun. Étudier les arts, c'est étudier l'histoire de l'humanité à travers les plus belles réalisations qu'elle a su en faire, grâce à des talents que, si j'étais croyante, je qualifierais de bénis des dieux. J'aime penser l'artiste comme un être doué d'une sensibilité plus aiguë que le commun des mortels et qui sait capter dans l'air, le sol ou l'univers, au sens le plus large, notre énergie commune, son rythme quantique qui nous fait vibrer et qui nous anime tous. Il a le pouvoir d'en retranscrire la beauté de manière visible pour que nous puissions tous en jouir. Mais justement, l'histoire de l'art ne se limite pas aux artistes, mais n'est possible que grâce aux personnes qui ont commandé ces œuvres, qui les ont payés et qui les ont admirés au fil des siècles. Pourtant, il ne s'agit pas de créations utiles, non, car l'art ne répond à aucun besoin vital ou nécessaire. Enfin, en est-on sûr ? Depuis les débuts de son histoire, l'humanité a fait montre d'une pratique artistique, des grottes de Lascaux aux pyramides d'Égypte ou de Teotihuacan, en passant par les aborigènes d'Australie. Alors même que les époques n'étaient pas propices à la flânerie, mais étaient plutôt celles de la survie. Mais voilà, l'art ne naît pas du confort. Il se pourrait bien qu'il soit réellement nécessaire aux groupes humains, finalement. Support de représentation et de vénération de divinités, ce que ces objets permettaient avant tout était la communion, le regroupement de personnes dans un même but, vibrant à l'unisson, à travers l'énergie renvoyée par l'œuvre. Car si l'on continue à pratiquer de l'art depuis si longtemps, c'est bien qu'il a quelque chose d'universel en lui. Peut-être bien que l'art est mon dieu, après tout. Oula, je divague. Voyez comme le simple fait de penser à ces créations merveilleuses me transcende. Et c'est bien ce transport que je souhaite partager. Oui, l'art est universel. Non, il n'est pas besoin d'avoir fait des années d'études pour être en mesure de l'apprécier. On peut tous trouver la forme d'art qui va nous toucher, qui va faire résonner en nous notre corde sensible. C'est pour cela que j'ai toujours voulu partager cet art et ne pas le garder égoïstement pour moi. Les sensations sont plus fortes à plusieurs. Finalement, à travers les explications que je donne à mes visiteurs au quotidien, je ne fais que leur accorder le droit de vibrer, qu'ils ne s'accordent pas autrement dans leur vie quotidienne. Donnez-vous le droit de passer du temps devant une œuvre, de l'observer, la confronter, la ressentir. Ça ne sera peut-être pas la bonne du premier coup, mais qu'importe, recommencez, vous finirez par la trouver. Combien de fois ai-je été subjuguée devant une œuvre, les peintures plus particulièrement pour moi. Et il n'était pas question de savoir que l'artiste était né à telle ou telle date ou était influencé par telle ou telle chose, non. C'est la matérialité de la peinture posée par la main de l'artiste qui devient une étoffe raffinée ou une chair délicate, sublimée par l'intensité des pigments choisis. C'est cela qui me fait m'arrêter de très longues minutes. Plus rien d'autre ne compte, si ce n'est de graver cet instant de beauté dans ma mémoire et dans ma sensibilité. Et déjà avec le sentiment affreux que je vais devoir finir par quitter cette salle de musée et perdre l'œuvre des yeux. Vous savez, quand on ne se sent pas bien, on a souvent besoin d'une oreille attentive à qui déverser nos malheurs, ce qui nous soulage et nous aide à diviser cette peine avec cette personne. Mais partager notre émerveillement et notre bonheur à plusieurs ne le divise pas. Au contraire, cela le multiplie et le rend plus fort à chaque personne qui vient le partager avec nous. Faire rentrer l'art dans nos vies, c'est peut-être ça le secret du bonheur.
Merci Galadriel. Alors, je vous l'avais promis, cette émission va vous donner des envies de balade pour les vacances de Noël. On part d'abord à Chantilly, dans l'Oise, au cœur de son magnifique château qui recèle bien des secrets en son sein. C'est rapide, depuis Paris, vous mettez 20 minutes en train pour vous y rendre et vous pouvez passer une bonne journée à visiter le domaine qui est immense, avec notamment de très belles écuries. Alors, je ne suis pas payée par l'Office du tourisme, j'aime juste beaucoup ce château Picard, construit en plusieurs phases, à plusieurs époques. À savoir que son musée, le musée de Condé, contient la deuxième plus grande collection de peintures anciennes, donc c'est-à-dire avant 1850, en France, après le musée du Louvre. Dans sa forme actuelle, le château est une reconstruction du 19e siècle pour le duc d'Aumale. Qui est ce duc ? Quelle exposition vous pouvez en ce moment voir au sein du cabinet d'art graphique ? Réponse avec la conservatrice Nicole Garnier. Un indice, il s'agit de photos.
Voilà, donc bonjour, Nicole bonjour. Garnier. Nous sommes actuellement dans le cabinet d'art graphique et en fait, depuis la restauration des appartements privés du duc d'Aumale au château de Chantilly, vous exposez régulièrement dans ce cabinet d'art graphique qui est en fait une chambre d'invités, la collection du duc d'Aumale et c'est un roulement entre la photographie, les dessins, les gravures, etc. Déjà, peut-être pour commencer, qui était le duc d'Aumale pour le château de Chantilly et pour l'histoire de France aussi ?
Alors, le duc d'Aumale, il est né en 1822, il est mort en 1897, donc il traverse tout le 19e siècle. Il est le cinquième fils du roi Louis-Philippe, le dernier roi des Français. C'est un jeune homme qui fait des études littéraires classiques au lycée Henri IV, qui commence une carrière militaire et politique. Il va de 1840 à 1848 combattre en Algérie dans des guerres de colonisation pour son père, le roi Louis-Philippe. Il va devenir gouverneur général de l'Algérie à 25 ans avec le grade de général, succédant au vieux militaire Bugeaud. Donc il y avait une brillante carrière politique et militaire qui s'ouvrait devant lui et tout s'arrête pour lui en 1848 lorsque son père Louis-Philippe est chassé du trône. Donc il va s'installer en Angleterre de 1848 à 1871. Il est exilé de France. Il va devoir vendre tous les biens qu'il a en France, dont le château de Chantilly, ce sera une vente fictive parce qu'il le récupérera en 1871, il l'a vendu à ses banquiers anglais, coup de passe-passe. Et pendant cet exil anglais, il va collectionner les œuvres d'art grâce à la fortune qui lui vient de sa famille Condé. Et donc, il va collectionner des œuvres qui, comme lui, sont exilées hors de France. Des tableaux, bien sûr, puisque Chantilly, c'est la première collection de peinture ancienne en France après le Louvre. Des livres, évidemment, puisque c'est aussi la première bibliothèque pour les manuscrits à peinture, notamment après la Bibliothèque nationale. Mais aussi la photographie. Il va aussi s'intéresser à cet art naissant qu'est la photographie. En effet, il est né en 22, donc il a 17 ans lorsque François Arago donne la photographie au monde. Et il va se passionner pour cet ensemble. Alors, le duc d'Aumale, revenu en France en 1875, fera reconstruire son château de Chantilly pour installer ses collections de tableaux, ses collections de livres, et il donnera l'ensemble, sous le nom de Musée Condé, à l'Institut de France, dont il est 3 fois membre, membre de l'Académie française, membre de l'Académie des Beaux-Arts et membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. En effet, il a eu le malheur de perdre tous ses enfants, et il souhaite que sa collection reste groupée, comme il l'avait disposé lui-même, sans jamais pouvoir être prêtée, ni sa présentation modifiée. Donc les tableaux sont présentés comme au jour de sa mort. Mais nous disposons maintenant, dans ces 5 chambres d'invités, d'un lieu pour montrer au public oui, les photographies, les dessins et les gravures.
Et donc là, dans la nouvelle exposition, vous racontez, vous essayez, enfin c'est réussi, vous racontez une histoire de la photographie au XIXe siècle. Comment vous l'avez conçue, cette exposition ?
Alors je l'ai conçue autour des centres d'intérêt du duc d'Aumale lui-même. Aumale, donc exilé hors de France, va collectionner énormément de photographies de Paris, la ville donc où il est né, et où il ne pourra pas retourner pendant 23 ans. Donc il va collectionner entre autres des photos de Baldus, ce peintre prussien, naturalisé français, des frères Bisson, photographes parisiens, qui vont s'attacher à reproduire les monuments du Paris du Second Empire qui sont en cours de restauration, de réaménagement. C'est le Paris d'Haussmann, en fait, que le duc d'Aumale cherche à se remémorer, à imaginer, puisqu'il ne peut pas mettre les pieds à Paris. Entre autres, on a une photo très touchante des Tuileries, vu de l'emplacement de la pyramide du Louvre actuelle, les fameuses Tuileries qui étaient la maison du duc d'Aumale avant 1948 et qui ont brûlé donc avant la fin du siècle. Donc pour le duc d'Aumale, c'est évidemment quelque chose d'essentiel que d'avoir une vue de ces bâtiments parisiens en cours de transformation sous le Second Empire. On voit le Louvre de Napoléon III avec les échafaudages encore sur les toitures.
Et on voit aussi l'évolution de la technique, notamment dans ces vues des montagnes d'Adolphe Braun, où vous racontez, enfin c'est écrit dans les cartels et vous l'avez raconté aussi en nous en visitant l'exposition, que le matériel est très lourd à transporter, et, notamment les chambres.
Alors oui, technologiquement, c'est très très compliqué de faire des photos, notamment en haute montagne. C'est un genre, hein, la photographie des Alpes, la photographie de haute montagne, dans laquelle vont exceller à la fois les Bisson et Adolphe Braun, à qui nous consacrons une salle. Et dans ces vues extraordinaires, ce sont des tirages de grande dimension. Les photos font pratiquement 40 par 50. Ce sont des tirages compacts, c'est-à-dire que les clichés verts faisaient ces dimensions-là. Donc imaginez le poids des châssis. Chaque photo, donc, c'est une exposition, c'est un châssis qu'on transporte. Donc il faut des colonnes entières d'alpinistes, de guides, de porteurs pour hisser tout ça en haut des montagnes. Il y a la neige, il y a la glace qui réverbère la lumière. Donc il est très difficile d'équilibrer les contrastes. C'est très complexe pour les photographes de réaliser des clichés parfaits. Et les tirages sont d'une qualité époustouflante. Enfin, on ne ferait pas mieux aujourd'hui avec les moyens techniques actuels.
Et puis il y a des épreuves que vous n'aviez jamais présentées avant au public de la collection du duc d'Aumale.
Alors la collection du duc d'Aumale, c'est une redécouverte en fait. Autant lorsque le duc d'Aumale a créé son musée Condé, on a évidemment tout de suite bien connu et apprécié la collection de peinture, une des premières de France après celle du Louvre, avec ses 3 Raphaël, ses 3 Frangelico, ses Poussins, etc. Autant on connaissait bien sa collection de livres anciens et de manuscrits précieux du Moyen-Âge, autant la collection photo, elle n'était pas connue du tout. J'ai eu la chance, en arrivant à Chantilly en 1992, de découvrir dans des paquets encore scellés depuis la mort du duc d'Aumale ces grandes photographies, donc qui sont contrecollées sur des cartons. Donc ça faisait un poids assez mince finalement, quelques liasses de grandes photographies, mais dans un état de conservation parfait, parce que le duc d'Aumale ne les exposait pas, il les gardait dans des cartons, dans des portefeuilles, et donc on peut aussi aujourd'hui découvrir ces photos telles qu'elles étaient au moment de leur réalisation, ce qui est exceptionnel par rapport à celles qui ont été beaucoup plus souvent exposées, montrées.
Et vous terminez l'exposition par les merveilleuses marines de Gustave Le Gray. Pour les réaliser, il use d'un procédé un peu particulier. Vous pouvez nous en parler ?
Alors Gustave Le Gray, c'est effectivement assez spécial. D'abord, c'est un grand inventeur, Gustave Le Gray. Il va inventer le papier ciré sec, il va développer le principe des tirages sur papier. Donc c'est vraiment un inventeur, mais c'est avant tout un artiste. Et il conçoit ses compositions, lui qui était à l'origine un élève de Delaroche, un peintre raté. il va devenir un artiste photographe et il conçoit ses marines comme on conçoit un tableau de marine au XVIIe siècle chez les Flamands. Alors à travers ses photographies, comme ici le Brick au clair de lune, qui est un de ses chefs-d'œuvre de 1856, il va effectivement user d'un subterfuge. La technique photographique de l'époque ne permet pas de reproduire à la fois, avec les mêmes temps de pose, les vagues au premier plan de la vue, de la marine, et puis le ciel avec les nuages, parce que les temps de pose sont différents. Et donc il va superposer au tirage deux plaques vertes. Donc c'est ce qu'on voit ici dans cette épreuve qui a été admirée, qui était l'aventure de toutes les librairies en 1856 à Londres, nous dit-on. C'est probablement là que le duc d'Aumale l'a acheté. Donc il y a un intérêt chez le duc d'Aumale pour la technologie photographique, mais aussi et surtout pour l'art nouveau que la photo. Donc il a parfaitement compris qu'on avait affaire à la naissance d'un art, ce que Gustave Le Gray n'a cessé de crier sur les toits.
Peut-être pour finir, est-ce que vous avez une photo en particulier que vous aimez particulièrement dans l'exposition et dans la collection du duc d'Aumale?
Alors c'est vrai que je suis particulièrement attachée à ce Brick au clair de lune, qui est une photo célèbre, à la fois parce que lorsque j'étais jeune conservateur au musée d'Orsay, je me rappelle l'acquisition par Françoise Elbrun, au moment où la photographie ancienne émergeait dans les musées. Alors on avait acheté 500 000 francs à l'époque, une épreuve de Brick au clair de lune. Nous, on a 5 marines ici à Chantilly exposées. C'est une épreuve tout à fait spectaculaire, avec donc toute cette recherche particulière qu'a mis Le Gray. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert les paquets encore scellés, la première signature que j'ai vue, c'est le tampon rouge Gustave Le Gray. Donc c'est vrai qu'elle est un peu chère à mon cœur.
Merci beaucoup Nicole Garnier.
Merci à vous.
Les primitifs de la photographie du 19e siècle de Baldus à Le Gray est donc à visiter au château de Chantilly jusqu'au 6 janvier 2019. Tout de suite, on écoute I Drink de Wax Taylor avec Infinite Live et on se retrouve juste après.
Wait.
C'était Wax Taylor, I Drink, avec Infinite Live. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, on est dimanche, et vous écoutez Museum Side.
Pas de photos, pas filmé, évitez de parler.
Museum Side. Dorothea Lange, peut-être que le nom ne vous dira pas grand-chose, mais si je vous parle d'une photographie, je sais que vous la reconnaîtrez. On y voit une jeune maman, les yeux dans le vide, deux de ses enfants nichés dans ses bras, les visages cachés. Le musée du Jeu de Paume revient sur cette image iconique en noir et blanc et bien plus encore, puisque l'exposition Dorothea Lange, politique du visible, propose jusqu'au 27 janvier 2019 de retracer la vie de cette photographe américaine. 5 parties pour 5 séries qui correspondent à 5 périodes de sa vie. De 1932 à 1934, elle commence à faire des portraits de fermiers en pleine crise économique pendant la Grande Dépression. Puis elle va travailler pour la Farm Security Administration de 1935 à 1941 en compagnie d'autres photographes dont les noms ont été injustement plus reconnus. Je pense notamment à Walker Evans. Elle immortalise les déplacements de ces fermiers ruinés par la crise et par la sécheresse, ainsi que les dispositions prises par l'État américain dans le New Deal. L'exposition présente ensuite 3 autres séries plus courtes, les travailleurs des chantiers navals de Richmond, notamment certaines femmes, peu nombreuses à l'époque, ça va sans dire. L'internement d'Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, un événement peu connu. Et pour finir, les travaux d'un avocat commis d'office de 1955 à 1975. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition ? Je me tourne vers vous. Boris, allez.
Un grand plaisir. Donc oui, pendant le mois de la photographie, Dorothea Lange, comme tu viens de dire, Florence, qui est surtout connue pour cette mère migrante. Et là, on apprend vraiment mieux à la connaître. On se rend compte de sa ligne directrice dans sa pratique artistique, notamment les travaux sur les Américains d'origine japonaise, qui sont très intéressants et qui sont beaucoup moins connus. Et l'exposition la met en lumière et c'est vraiment intéressant, cette partie-là.
Oui, moi je savais pas du tout que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains d'origine japonaise, je crois que c'est toi Marie qui a choisi cette partie-là.
Non, je le savais pas non plus. Enfin, on en reparlera peut-être.
Par la suite. Toi, t'en as pensé quoi Marie de l'expo en général? Bien conçue?
Ouais, j'ai trouvé qu'elle était très belle. C'est étonnant parce que pour le coup, je suis vraiment une béotienne en photographie, je n'y connais absolument rien. Et donc ça m'a fait très plaisir de découvrir Dorothea Lange. Et c'est drôle parce qu'en voyant les affiches, j'avais l'impression que c'était des plus grands formats et j'étais étonnée. C'est assez intimiste en fait, les formats qu'elle a utilisés. Bon, j'imagine aussi que c'est lié à la technique qu'elle a employée. Et j'aurais aimé juste avoir plus de clichés en fait sur les chantiers navals. Pardon, oui, sur les chantiers navals et également sur l'avocat commis d'office. J'ai trouvé que c'était un peu dommage, en fait.
Oui, les séries étaient un peu courtes, ouais, par rapport aux deux premières parties. Bon, elle est plus connue pour ses séries quand elle travaillait pour la Farm Security Administration, mais c'est vrai que du coup, c'est les dernières séries, notamment sur les Américains d'origine japonaise internés, sont plus courtes. Il y a moins de photos dessus. Non, Boris, tu hoches la tête, tu n'es pas content.
C'est certain que le récit de la migration, c'est vraiment la partie phare de sa vie et de sa pratique artistique. Mais non, j'ai trouvé justement que toute la partie par rapport au camp de concentration, notamment la vidéo, était assez explicative et assez longue. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, toute la partie en commis d'office ou ses débuts, notamment moi, j'aurais été curieux, parce qu'elle a commencé en tant que portraitiste, de voir ses premiers portraits. J'aurais aimé en voir plus, j'aurais aimé voir cette, parce que c'est indéniable, on voit vraiment que ça la poursuit à travers toute sa pratique artistique, qu'on a cette portraitiste qui arrive justement à faire ressortir ça pendant toute sa carrière. J'aurais peut-être aimé voir plus de photos de la première phase de sa vie, mais non, concernant les Américains d'origine japonaise, justement, j'ai trouvé qu'on mettait quand même assez l'emphase sur cette période-là.
Oui, parce que c'est vrai que dans la vidéo, c'est une vidéo, donc, pour expliquer aux auditeurs, qui montre page par page toutes les photos qui n'ont pas pu être montrées dans l'exposition.
Exactement. Et c'est assez extraordinaire de savoir qu'il y avait quand même un secret politique par rapport à ça. Je ne sais plus en quelle année ces photographies ont été autorisées, mais ça ne fait pas longtemps que l'armée américaine a autorisé la divulgation des photographies. C'est vrai que c'est un pan de l'histoire internationale qui est peu connu, qui est peu documenté. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de voir dans quelles conditions ils étaient entre ces deux guerres.
Et tu dis que c'est une grande portraitiste. En effet, elle a été connue pour un portrait principalement, dont on va revenir dessus, on n'arrête pas d'en parler sans en parler, Migrant Mother. Et c'est effectivement un portrait qui l'a fait connaître, cette mère qu'elle avait trouvée dans un camp de réfugiés, de fermiers qui étaient en transition pour aller ailleurs tenter leur chance.
C'est totalement un portrait dans la composition, dans le travail photographique. Donc c'est sûr que c'est très bien composé. Et surtout, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce qui est intéressant dans cette exposition-là, c'est qu'on voit tout le processus de création. Donc notamment cette photo est iconique, on la connaît très bien, mais dans l'exposition, et c'est même ça que j'ai certainement préféré, c'est qu'on voit d'autres photos. Il y a 5 photos au total de cette scène-là.
Oui.
Et en fait, c'est vraiment, on la voit se rapprocher petit à petit. On a un plan large avec les enfants au début qui regardent la caméra. Et petit à petit, elle se rapproche. C'est d'ailleurs la dernière photo qui fait trace. C'est cette photo où on sent justement la présence de la caméra. On sent la présence de la photographe parce qu'on voit que les enfants ont peur. On voit que les enfants finalement tournent le visage. Donc, on sent vraiment la présence du photographe. Et moi, c'est vraiment d'avoir ce contexte-là qui m'a plu parce que les autres photos, j'en avais vu quelques-unes, mais je ne les ai pas vues dans leur intégralité. Et là, j'ai trouvé que c'était un moment fort de l'exposition.
Et toi, Galadriel ?
Oui, alors, particulièrement par rapport à cette photo, moi, ce qui m'a interrogée, c'est de savoir comment Dorothée Allange arrivait à rentrer aussi proche dans l'intimité de ces personnes, en fait. Quelle était la relation, comment elle s'approchait de ces personnes qui acceptaient, du coup, de se faire photographier dans leur plus grand dénuement, finalement. Voilà, c'est à la fois touchant et troublant, je trouve.
Et ce qui est souligné d'ailleurs dans l'expo, c'est qu'elle fait un effort pour à chaque fois, en effet, nouer une relation avec ces personnes qu'elle photographie. C'est pour ça que c'est une très grande portraitiste aussi. Et elle veut vraiment montrer le contexte aussi. D'ailleurs, les cartels sont très longs et expliquent vraiment où elle a fait la photo.
Les cartels sont capital pour elle, vraiment. Elle a une relation à l'écriture. Qui est très importante dans son œuvre. Donc la photographie est importante, mais le titre de l'œuvre, le titre de la photographie est capital pour elle. Ça fait vraiment partie de l'intégralité de la photographie. Et notamment, c'est intéressant parce que pour Migrant Mother, c'est une des seules photographies où elle n'a pas fait ce travail en amont. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prenait une photo, comme tu l'as souligné Florence, elle se renseignait sur le contexte. Donc elle se présentait avant toute chose. Donc elle estimait que c'était des personnes... qui avait de la valeur. Donc elle se présentait, elle expliquait qui elle était, quel âge elle avait, quel était son métier, et après ces personnes-là se présentaient également, et en amont et après ça elle prenait des photographies. Mais pour Migrant Mother, et c'est pour ça que cette photo est finalement peut-être pas plus forte que les autres mais différente, ressort peut-être du lot, c'est qu'elle s'est pas présentée, elle est arrivée sur le lieu, et on sent justement ça à travers ces 5 photographies, c'est qu'elle s'approche petit à petit, et à la fin de la séance, elle demande à cette femme, elle lui demande pas son âge, elle lui demande pas qui elle est, elle lui demande pas qui est son prénom, elle lui demande pas sa profession, elle lui demande seulement son âge. Et on a su par contre après qui était cette femme, parce que bien entendu cette photo est parue dans la presse, et à l'époque c'était comme ça que les informations sortaient, et déjà à l'époque il y a une grosse impact, cette photographie a vraiment eu un impact à travers tous les États-Unis, et donc on s'est renseigné sur cette femme et sur son histoire, mais en amont on ne connaissait pas. Dorothée Allange ne s'est pas renseignée sur cette femme-là, ce qui est extrêmement rare dans tout le reste de sa pratique.
Et après, il me semble que ses autres collègues qui ont aussi répertorié comme ça les conséquences de la Grande Dépression et de la sécheresse sur les fermiers, documentaient pas mal aussi. Il me semble que Walker Evans faisait aussi des longues légendes.
Oui.
Quand on a vu son exposition, qui était où, rappelez-la-moi, il y a une expo de Walker Evans. Je crois que c'était au Centre Pompidou, plutôt, l'année dernière.
Oui, au Centre Pompidou.
Grosse exposition de Walker Evans. Et ça m'a vraiment... Enfin, je trouve que l'expo de Dorothée Lange m'a vraiment beaucoup fait penser à celle de Walker Evans. Et ce qui n'est pas juste, parce que, comme je disais, Walker Evans est beaucoup plus connu qu'elle, alors qu'ils ont un peu le même type de travail aussi.
Bah, c'est vrai qu'on est sur du photojournalisme, donc... Je pense que de mettre un contexte, c'est important.
Oui.
C'est important, c'est même capital. Donc c'est sûr que là, oui, le titre, la légende est super importante.
Ce qui était le cas aussi pour le Sud-Africain, qu'on a vu...
David Goldblatt, oui, tout à fait.
David Goldblatt.
Oui.
Très important le contexte aussi, lui.
Toujours.
Un cas d'Afrique du Sud. Marie, tu voulais parler un moment, j'ai vu que tu m'as fait un signe.
Oui, pour la petite histoire, en fait, j'ai lu quelque part que Migrant Mother, donc cette photo... La femme qui a été prise en photo, il y a un journaliste américain de Californie qui l'a retrouvée. En fait, elle vivait dans une caravane au bord d'une ville. Elle avait 75 ans, beaucoup plus tard. Et en fait, elle était assez amère parce qu'elle avait eu une sorte de... Son visage qui était immortalisé, mais elle n'a jamais eu de droit ou de... Mm-hmm. Elle n'a eu que la célébrité. Elle n'a rien eu d'autre, en fait, pour cette photo. Et c'est devenu une sorte d'icône de la Grande Dépression américaine. Et voilà, et c'était assez étonnant parce que d'habitude, Dorothée Allange, effectivement, apparemment, elle demandait le nom systématiquement des personnes qu'elle photographiait. Et celle-ci, qui est donc vraiment la plus connue, la plus emblématique de son travail, elle ne l'a pas fait. Enfin voilà, je...
Bon, et bien très bien, autre chose à ajouter ? Non ? Toi, Galadriel, tu ne nous as pas dit trop ce que tu avais pensé de l'expo ?
Bah, c'était intéressant de découvrir le travail de Dorothée Allange, effectivement, où je ne connaissais aussi que cette fameuse photographie. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'installation au centre avec toutes ces planches contact. Du coup, ce qui nous permet de voir je sais pas, des milliers de clichés qu'elle a réalisés. Je pense que tu en parleras, le cadre Boris dans lequel elle avait fait tous ces clichés.
Tous les clichés donc, de la forme Security Administration quand elle travaillait pour l'État, c'est ça ?
Voilà. Et donc, en tout petit format de ces planches contact. Et j'aime bien ce genre de rapport, effectivement, aussi directement avec le médium photographique et le travail de ce photojournaliste, photographie documentaire, où évidemment il y a toujours des milliers de clichés qui sont pris. Après, il s'agit de choisir toujours quel cliché mettre en avant. J'ai été contente aussi tout de même qu'il n'y ait pas trop de photos, j'avoue, que l'exposition ne soit pas trop longue, parce que je trouve que c'est souvent ce qui peut être un petit peu indigeste quand il s'agit d'exposition de photographie. Là, je trouve que c'était bien dosé.
Moi, j'aime bien aussi quand les formats sont plutôt assez gros et pas forcément, tout simplement pour la qualité aussi de la visite, quand les formats des photos sont standards, voire un peu plus grands. J'aime pas les petits formats en photo.
Oui, mais après, il s'agit, je suppose, pas dénaturer non plus le travail du photographe. Donc, après, bon, ça, c'est pas
forcément c'est un bon équilibre.
Ouais. Beaucoup.
Mmh. Boris ?
Oui, oui. Après, comme tous les artistes, après, c'est un choix. Là, c'est certain qu'on n'est pas dans des œuvres intimistes, mais c'est vrai que la taille des photos était vraiment bien. Par rapport au rapport qu'on avait avec elle, et je rejoins complètement Galadriel par rapport aux planches contact. Je trouve que moi, dans toutes les expositions, que ce soit en photographie ou ailleurs, quand on fait participer le visiteur, je trouve ça très intéressant. Et là, toutes ces planches contact, on se prend au jeu de prendre la petite loupe, de regarder des détails, de se dire « Ah, celle-ci est intéressante aussi ». Et c'est surtout, on prend conscience qu'elle a traversé tous les États-Unis et qu'elle a fait 22 États exactement, et qu'elle a fait un travail colossal.
Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour rappel, petite contextualisation, justement, comme le faisait Dorothée Allange. Donc, Dorothée Ann Hutson est née en 1895 à Hoboken, dans le New Jersey, aux États-Unis, au sein d'une famille d'immigrants allemands de la deuxième génération. À 18 ans, donc comme tu disais Boris, elle se lance dans la photo et elle apprend d'abord son métier à New York auprès de portraitistes en studio bien connus. Et c'est en 1918... qu'elle ouvre son propre studio à San Francisco et qu'elle prend alors le nom de jeune fille de sa mère, Lange. Son studio va alors lui permettre d'être indépendante vis-à-vis de sa famille, ses deux fils et son mari, un peintre célèbre, Maynard Dixon. Alors par la suite, Galadriel, elle s'intéresse aux scènes de rue pour montrer les effets de la Grande Dépression.
Oui, effectivement. Donc là, c'est le tout début de l'exposition. Une partie qui n'est pas très, très grande, hein, très importante, mais qui est très bien faite pour introduire l'exposition et le contexte de travail de Dorothée Allange. Je me permets de la citer quand elle dit que la Grande Dépression m'a réveillée. Et c'est vrai que, à partir de la fin des années 20 et pendant toutes les années 30, bien le krach boursier hein, qui a plongé les États-Unis dans une grave crise économique, elle va quitter un petit peu son studio de portraitiste pour s'ouvrir à ce qui se passe dans la rue, pour observer ces milliers d'hommes qui se trouvent sans travail, démunis, sans abri. Et Dorothée Allange se prend à les observer, d'abord depuis la fenêtre de son studio. Alors, je vais me servir justement de ces légendes hein, très importantes qui se trouvent sous ces clichés pour vous citer encore une fois la photographe. Elle nous dit... j'ai été contrainte de photographier en réaction directe à ce qui se passait autour de moi. Là, dans mon studio de Montgomery Street, j'étais environnée de signes de la crise économique. Des chômeurs erraient juste là, s'arrêtaient, et je voyais bien qu'ils ne savaient pas quoi faire après. Je savais qu'à l'extérieur, il y avait beaucoup de désordre et que des chômeurs devaient manifester au Civic Center. Donc ça, c'est une légende qui se trouve... sous une photographie où on voit un groupe d'hommes qui sont complètement resserrés en train d'attendre pour la soupe populaire, hein, je crois bien. Et il y a simplement un homme, assez âgé d'ailleurs, qui est retourné, dont on voit un peu le visage alors que tous les autres sont de dos. Et à la fois, il y a tous ces hommes qui sont resserrés les uns contre les autres et en même temps, avec le visage de cet homme, une très grande solitude hein, qu'on sent chacun de ces hommes qui ont perdu leur travail et qui devaient avoir énormément de difficultés pour continuer à vivre, tout simplement.
Incroyable ce cadrage avec cet homme justement retourné. Elle est vraiment marquante, cette photo, je trouve.
Ouais. Et donc, dans ces années-là, surtout à partir de 1932, elle photographie les conséquences directes de la crise en sortant de son atelier. Et c'est une crise qui touchait aussi bien les milieux de l'agriculture que les milieux urbains. Donc, c'était une crise extrêmement profonde. Et c'est vrai que tous ces commentaires de Dorothée Allange sous ces photos sont très précieux. Elle-même, il y a une petite citation, encore une fois, qui explique pourquoi elle inscrit ces commentaires. « Je n'aime pas ces récits qui indiquent ce qu'il faut regarder ou expliquent une photo. Je préfère les textes qui approfondissent le contexte sans orienter les pensées du spectateur et lui donnent simplement davantage d'éléments avec lesquels regarder la photo. » Et effectivement, je pense que c'est extrêmement important, surtout à notre époque, dans notre contexte nous culturel, historique, d'avoir ces commentaires afin de nous replonger dans le contexte de cette époque. Et de comprendre tout simplement ce qu'on voit à travers ces photographies-là. Et c'est dans cette partie que l'on voit la photographie de l'orateur lors d'un rassemblement de travailleurs que l'économiste Paul Taylor utilise pour illustrer un de ses articles consacré à une des plus grandes grèves qui a touché l'histoire américaine, la grève des dockers. Et je pense que Boris, tu vas peut-être continuer sur leur collaboration justement.
Alors oui, donc effectivement, ensuite elle va travailler pour la Farm Security Administration, Boris.
Exactement, donc le travail vraiment qui la révèle et qui la révèle au monde, donc récit de la migration donc de 35 à 41. Donc comme l'a très bien dit Galadriel, donc on est vraiment le krach boursier, la Grande Dépression. Et donc là, elle prend son appareil photo et elle va suivre ces migrants-là. Donc des photographies qui sont, on voit sa force, on voit vraiment que c'est une très grande photographe, que c'est une portraitiste. Et c'est ça, une force qui se dégage de toutes ces photographies-là. On fait des ponts automatiquement avec notre époque, alors on va pas non plus rentrer nécessairement dans, pas de simplification à outrance à travers notre époque et la sienne, mais automatiquement quand on voit ces caravanes de migrants-là, On pense automatiquement, nous, à notre époque actuelle. Et là, de voir justement ces personnes blanches, ces familles, les conditions dans lesquelles on vit, ça nous fait poser des questions. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait ce parallèle-là, justement, sur des conditions dans lesquelles ils vivaient. Donc, pour revenir plus précisément donc, sur ces caravanes de migrants, sur le travail qu'elle a fait d'archiver, de documenter ces caravanes qui partaient du Middle West pour aller en direction de la Californie. Donc, on est sur... sur des fermiers, on est sur des ouvriers, donc qui quittent tout, qui n'ont rien, et donc qui partent parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Moi, il y a une photographie qui m'a bouleversée, c'est ce père avec sa fille, et la légende justement Dorothea Lemay, c'est où est-ce qu'on peut aller quand on n'a nulle part où aller. Et on a ces regards-là qui nous fixent, qui nous questionnent, qui nous font nous positionner. Et toutes ces photographies-là, oui, c'est vraiment sa force. C'est de chacune d'elles, il y a une connexion avec le sujet. On est face à elle et on arrive vraiment à contextualiser. On arrive à comprendre cette époque-là. On arrive à s'imaginer parce qu'on voit les conditions de vie dans lesquelles ils vivent, les camps notamment dans lesquels ils vivent. Il y a une série où il y a un camp qui prend feu. Et au premier plan, on voit cette commode, cette petite commode, ce petit miroir. Et à l'arrière-plan, il y a des flammes. Et on se dit, oui, qu'au final, bah, c'est un quotidien qui prend flamme.
Mais du coup, elle avait été mandatée, c'est ça, par les États-Unis avec d'autres photographes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça?
Ben c'est ça, elle a été mandatée justement pour pouvoir documenter qu'est-ce qui se passait là. Et justement, ces photos ont eu un tel impact que ça a poussé le gouvernement à construire des camps pour ces réfugiés-là, pour ces travailleurs-là. Donc notamment des camps pour les travailleurs de poids. Donc on a beaucoup de ces camps-là qui sont pris en photo. Et oui, elle a été mandatée et donc à travers 42 États, je crois, 22 États différents. Donc 22 États différents à travers tous les États-Unis. Et elle a été justement, toute sa vie, elle a été mandatée par le gouvernement. Elle a eu beaucoup de contrats justement pour rendre compte de certaines situations. Et on voit finalement qu'elle a une certaine liberté qu'elle n'a pas eue pour d'autres contrats. Mais on voit qu'elle met le doigt sur des choses dérangeantes, sur un regard, et finalement, ça retourne la situation, et ça donne, il y a un axe dans l'histoire, qui est un tournant dans l'histoire. Notamment avec Migrant Mother, donc on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, et donc c'est ça, cette photo-là a eu un impact considérable à l'époque, ça a retourné l'opinion, et c'est justement à partir de là qu'on a mis en place le New Deal également, et qu'on a mis en place des camps pour ces réfugiés.
Et du coup, l'acmé de cette période-là, donc c'est donc la fameuse photo Migrant Mother, c'est quand même toute une salle cette période-là.
Oui, c'est toute une salle. Donc là, on est en 35-41. Donc la photographie de Migrant Mother a été prise en... je ne sais plus, j'ai noté. En 36, oui. En 36. Donc oui, c'est toute une époque. Et là, c'est vraiment le point central de toute cette époque-là.
Ok. Alors, un épisode peu connu, c'est celui donc, comme on l'a dit, de l'internement des Américains japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie.
Alors effectivement, c'est un épisode qu'on connaît pas très bien de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'internement des citoyens américains d'origine japonaise. Ça fait suite après l'attaque de Pearl Harbor, en fait, par les Japonais du 7 décembre 1941. Les Américains décident d'interner à peu près 110 000, 120 000 citoyens américains, mais qui sont d'origine japonaise. Ça représente 3 générations au total de citoyens. Alors, Dorothea Lange, dans ce contexte-là, elle est mandatée par la War Relocation Authority. C'est une agence gouvernementale de mars à juillet 1942. Pour prendre des photos, en fait, des conditions de vie de ces citoyens américains d'origine japonaise dans les camps qui sont dans les États-Unis, en fait. Il y a à peu près une dizaine de camps, vraiment dans des états assez isolés des États-Unis. Ils vont rester 18 mois dans ces camps-là, en fait, ces citoyens, et les photos vont être classées en archives militaires. Parce qu'en fait, le but, à l'origine, c'était de montrer que les gens étaient traités avec humanité, mais elle en a tiré une sorte de constat assez accablant, en fait, pour l'administration américaine. Donc l'administration Roosevelt a censuré ces photos. Elles sont sorties qu'en 2006 dans un livre. Et nous, on a la primeur, en fait, à Paris, avec l'exposition de toutes ces photos-là. Elle est donc très sensible à leur sort, en fait. On voit le malheur de tous ces quartiers, en fait, de camps qui sont peuplés de gens. Il y a des enfants avec des étiquettes autour du cou. Il y a tous les quartiers résidentiels aussi aux États-Unis avec les quartiers japonais, en fait, qui sont désertés après ces internements. Il y a la réorganisation de la vie, en fait, qu'elle arrive très bien à photographier dans les camps. Les bibliothèques, les coiffeurs, les kimonos qui sèchent, le grand-père qui apprend à marcher à son petit-fils. C'est des moments de vie, en fait, malgré toute cette adversité, en fait. Mais elle arrive à montrer comment ils sont désindividualisés, ils font tous la queue, ils ont tous des costumes, entre guillemets. Ça contraste vraiment avec la froideur, en fait, des habitations qui sont toutes alignées. Mais elle n'a pas le droit de photographier, par exemple, les soldats qui sont armés, qui gardent les camps. Donc, ça fait assez
bizarre. C'est vraiment étonnant. Ouais. Enfin, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, sachant que ça a été classé pendant des années.
Ouais. En fait, elle a vraiment photographié de manière orientée. Et même en faisant ça, elle a quand même réussi à retranscrire de manière très juste les conditions de vie de tous ces citoyens-là d'origine japonaise.
Très bien. Bon, donc moi je finis. Alors j'ai voulu évoquer rapidement la dernière série de l'exposition, celle qui concerne le travail d'un avocat commis d'office. En 1914, la Californie institue un système de représentation légale pour toutes les personnes ayant besoin d'une aide juridictionnelle dans les affaires judiciaires. Et donc, dans les années 50, en fait, cette aide va s'étendre à de nombreux autres États américains. Alors, Dorothée Allange est chargée par le magazine Life de couvrir le sujet de la justice pour tous dans les locaux du palais de justice du comté d'Alameda dans l'Oakland. La publication est prévue pour mai 1956 à l'occasion de la journée du droit. Elle obtient donc l'autorisation de travailler dans les cellules de la prison, dans et autour du tribunal. Elle réalise ainsi 450 photographies. Une petite dizaine sont présentées dans l'exposition. Alors j'étais d'ailleurs un peu frustrée d'en voir si peu, justement, comme tu disais, Marie, de cette série qui, je trouve, est vraiment intéressante parce que ça nous plonge au cœur de la justice américaine et assez tôt dans le XXe siècle, dans les années 50. Et donc, comme elle ne vole jamais une photo, hein, comme on l'a dit, mais qu'elle aime travailler avec les personnes qu'elle portraiture en les remettant dans le contexte de leur vie, elle va collaborer avec Martin Pulisch, un avocat commis d'office américain d'origine yougoslave. Elle le suit à différents moments de sa journée de travail, notamment avec ses clients. Et puis, finalement, donc, la série ne sera pas publiée par Life, mais elle sera reprise par de nombreux journaux, notamment à l'international. Alors moi, je trouve que c'est un travail vraiment intéressant, aussi parce qu'il montre les préjugés raciaux, notamment omniprésents à cette époque, dans la région de la baie de San Francisco. Un mot à rajouter, quelqu'un, pour la fin ?
Foncez-y.
Allez, ce sera donc le mot de la fin. L'exposition Dorothée Allange, Politique du visible, est à voir à la Galerie du Jeu de Paume jusqu'au 27 janvier 2019.
Je comprends pas ce que je vois.
Et tout de suite, avant d'écouter ta chronique, Marie, on écoute Si-Tou-Si et Fouya, et on se retrouve juste après.
Thank you.
Marie, je me tourne vers toi, c'est l'heure de ta chronique et tu nous emmènes quelque part.
Oui, alors je vous emmène à la fois quelque part et nulle part parce que vous pouvez consulter ce site chez vous. Ce sont les archives de la planète. Alors qu'est-ce que c'est les archives de la planète ? C'est au musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. Puisqu'on parlait de photos, alors juste pour le resituer, hein, Albert Kahn, c'est un homme d'affaires qui était banquier et philanthrope français qui a vécu de 1860 à 1940. Il a acquis une maison en fait, qui a été transformée en musée, qui est gérée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine maintenant. Et moi, je le connaissais en fait, parce qu'il avait voilà. des jardins japonais en fait, autour de sa maison. Et il a ramené même deux maisons et un temple en fait, du début du XXe qui sont japonais. Et il les a fait reconstruire, en fait, là-bas, à Boulogne. Il a constitué un important fonds iconographique de photos qui s'appelle les Archives de la Planète. Ce sont des autochromes. Et en fait, c'est la collection d'autochromes la plus grande du monde. Et des films en noir et blanc. Alors, les autochromes, c'est un procédé de restitution de photos graphiques des couleurs qui a été breveté en 1903 par les frères Lumière. C'est la première technique industrielle de photos en couleur. Alors, Albert Kahn, ce qu'il fait pour constituer sa collection, en 1908, il part au Japon et en Chine. Il fait prendre par son mécanicien chauffeur, Alfred Duterte, qui à la base est un ingénieur, plus de 4000 images et d'images animées. En fait, ça témoigne vraiment de son voyage autour du monde. En 1909, il part en Amérique du Sud, il va en Uruguay et en Argentine. Il ramène Auguste Léon, qui cette fois est un photographe professionnel. Ensuite, il va mandater en fait, d'autres opérateurs professionnels photographes. Il va les recruter, il va les envoyer en France, dans le monde entier, pour prendre des photos sur plaque autochrome, pour témoigner, je cite Albert Kahn, des aspects, des pratiques et des modes d'activité humaine dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps. Donc en fait, il va prendre toutes ces photos de 1931, et il va constituer une collection de 72 000 autochromes et plus de 100 heures de films qu'il va prendre en fait sur 60 pays. Il va les montrer à ses invités. Et c'est intéressant aussi parce qu'il prend en photo en fait, des personnalités d'entre-deux-guerres. Et comme c'est des photos en couleur, parfois c'est les seules que l'on ait pour ces personnes-là. Souvent des politiques d'ailleurs. Et donc c'était un versant iconographique d'un grand projet de documentation qu'il a complété lui avec des publications. C'était vraiment un philanthrope, mais vraiment sur tous les aspects. Et en fait, le but de tout ce fonds-là, c'était une meilleure connaissance des nations pour une meilleure entente, pour prévenir les conflits meurtriers.
Tant que ça.
Ouais. C'est tout si son peu. But. Et donc ces images, en fait, qu'il a réunies, elles vont être projetées à tous ses invités, qui sont des politiques, des diplomates, vraiment de l'entre-deux-guerres. Enfin, il a fait un travail. Et il va même les projeter dans des universités. Alors bon, toutes ces photos, elles sont accessibles depuis 2016 en ligne. C'est ça que je trouve génial, en fait. Il y a 50 000 images qui ont été prises en Europe, 1000 en Afrique, 8 000 au Moyen-Orient, 6 000 en Asie. Moi, je me suis attardée plus sur la Chine, évidemment. Hein. Mais c'est trop génial parce qu'en fait, vous pouvez vous perdre pendant des heures. Il y a tous les sites en fait, archéologiques là-bas, l'allée des Ming en 1909, qui est complètement vide, en fait, les tombeaux des Ming.
Ne nous dis pas que tu vas sur ce site pendant que tu travailles. Voilà, non, on a compris. Tu peux y rester pendant des heures, j'ai peur.
Non, mais c'est génial parce que c'est réparti par lieu et par thème. Vous avez les thèmes, je sais pas, être surnaturel. En Argentine. Donc là, vous avez toutes les photos qui sortent.
Tout un sujet.
Voilà. Donc, c'est consultable en open data sur collection.albertcan.hautesseine.fr et c'est accessible à tout le monde.
Merci beaucoup, Marie. Alors, pour finir, comme chaque mois, on fait le tour des coups de cœur et on commence par qui ?
Allez, par moi.
Allez, Boris, qu'est-ce que tu nous conseilles de voir pour Noël ?
Pour Noël, exactement. Et pour Noël, et même avant Noël. Moi, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui, comme moi, sont déjà nostalgiques du mois de la photo qui vient de se terminer à Paris. Et je vous invite donc à courir à la fondation Good Planet pour profiter des derniers jours de l'exposition Genesis du photographe Sébastien Salgado. Vous avez en effet jusqu'au 16 décembre.
Sébastiao, donc, tu veux
Sébastiao,
dire.
Sébastiao, exactement, mon essai, je fourche. Donc, on a en effet jusqu'au 16 décembre, et donc pas le 25, Florent, jusqu'au 16 décembre, pour profiter de 60 grands tirages de ce très beau photographe qui vous feront voyager dans des paysages splendides de notre planète. Donc, amis rêveurs, foncez-y, d'autant plus que l'exposition est gratuite.
Et la Fondation Good Planet, c'est où ?
La fondation Good Planet, c'est dans le 16e, à côté de la fondation Louis Vuitton.
Ah, d'accord, donc dans le bois de Boulogne.
Dans le bois de Boulogne.
Très bien. Mais écoute, allez dans le bois de Boulogne pour voir et la fondation Louis Vuitton et la fondation Good Planet. Pour finir, j'aimerais parler de l'exposition Chagall, du noir et blanc à la couleur, présentée jusqu'au 24 mars à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Sous un angle inédit, celui du cheminement de l'artiste juif, du noir et blanc dans ses esquisses, c'est la vie, ses dessins à l'explosion de la couleur sur ses huiles, l'expo présente des chefs-d'œuvre évidemment. 130 œuvres sont réunies, aussi bien des peintures et des gouaches que des collages, sculptures et céramiques. Un cheminement aussi bien technique que spirituel, puisque Chagall a consacré de nombreuses séries de dessins et de peintures à des scènes de la Bible. On en prend plein les yeux sur les deux étages de ce très bel hôtel particulier qu'est l'hôtel de Caumont. L'occasion également de visiter ses jardins, une belle promenade pour Noël. Et oui, il fait froid, mais bon, c'est pas une raison pour ne pas se balader.
Museum Side.
Votre émission de critique d'exposition.
Voilà, c'est la fin de ce numéro de Museum Side consacré à la photo. Merci à Nicole Garnier, merci à vous Boris, Galadriel et Marie. On se retrouve...
Bonne fête à tous.
Voilà, joyeux Noël.
Joyeux Noël à tous.
Même si on est un peu en avance le 9 décembre, mais bon, il n'est jamais trop tôt pour dire joyeux Noël. On se retrouve le dimanche 6 janvier pour commencer l'année en musique. On parlera de Michael Jackson, puisque le Grand Palais consacre à l'artiste une grande exposition. Alors, intéressant ou affligeant, on en parlera tous ensemble. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord.
J'ai l'air un peu orienté déjà, hein. Ça me plaît pas beaucoup.
Voilà, il y a des pour, il y a des contre. On en parlera d'ici là. Joyeux Noël et surtout, n'oubliez pas les chocolats et les cadeaux. Restez sur Radio Campus Paris, la soirée continue.